Alors nous abordons cet après-midi la confession, essayant d'examiner bien sûr le bien fondé, le caractère indispensable d'une bonne confession dans une retraite. Une retraite, c'est à la fois un double mouvement qui inverse celui du péché. Le mouvement du péché, nous l'avons vu, nous rapproche de la créature, nous éloigne de Dieu, c'est simultané. La retraite est un mouvement inverse, donc qui nous éloigne du créé, qui nous rapproche de Dieu. Et l'un des moyens de nous rapprocher de Dieu, c'est évidemment son sacrement de la pénitence qu'il nous a donné pour justement nous faire revenir à lui si nous l'avions quitté, si nous avions perdu l'état de grâce, et bien sûr nous purifier de nos fautes, quelles qu'elles soient, même légères donc, qui nous avaient obscurci, mis des obstacles, limité la grâce, puisque nous l'avons dit un petit peu rapidement sur la conférence sur le péché, mais il y a donc cette multiplication des péchés, qu'on dit véniels, qui entrave finalement le bon exercice des fruits de la grâce. Ce ne coupe pas, ce ne fait pas disparaître la vie de la grâce, mais ça la paralyse. Et c'est pour cela qu'il faut bien se rendre compte, à l'école de Sainte Thérèse d'Avila, je vous avais cité, de l'importance finalement de ces péchés véniels, même s'ils ne sont pas graves au sens de faire perdre la grâce, ils sont graves au sens où ils nous entravent, ils nous paralysent, ils nous anesthésient au fur et à mesure et nous font perdre la délicatesse de conscience qui est nécessaire pour avancer avec plus d'amour vers Dieu. Et on finit par se satisfaire de nos infirmités spirituelles, de nos péchés véniels, comme étant des moindres maux. Et du coup, on ne cherche plus vraiment à les combattre, à les supprimer, à les déraciner. Alors la confession dans une retraite a bien sûr ce rôle important de non seulement nous purifier bien sûr de nos péchés, mais ça n'importe quelle confession le fait, mais aussi de nous faire comprendre l'importance de ce sacrement qui nous a été donné par notre Seigneur Jésus-Christ. La retraite nous fait redécouvrir le sens de notre vie, nous l'avons déjà vu, et bien vite nous nous rendons compte que eh bien, nous nous sommes éloignés. Il y a déjà 2 jours que vous passez à méditer. Eh bien, vous devez vous rendre compte. Il y a forcément cette grâce déjà dans cette retraite. Le bon Dieu la donne presque automatiquement, si je peux dire. C'est qu'en 48 heures, on se rend compte que finalement, ben oui, l'âme que l'on croyait en bon état est finalement bien blessée par les conséquences du péché originel, par nos propres péchés personnels aussi. Et puis on s'est éloigné de Dieu. On mesure davantage cette distance qui, insensiblement souvent, sauf s'il y a des choses graves évidemment, là ça n'a pas été insensible, ça a été brutal, mais en tout cas si ça a été des fautes d'habitude, de petites fautes vénielles multipliées, on se rend compte dans une retraite de cette distance qui s'est creusée entre Dieu et nous, tout en maintenant, s'il y a la grâce, cette vie divine. Mais elle se trouve, je le disais, paralysée, sans grand fruit. Et c'est ça qui nous fait dire qui nous fait croire que nous ne pouvons pas avancer, que nous sommes faits comme cela, que tel ou tel de nos défauts est inévitable, c'est dans notre caractère. Alors quand on a dit que c'est dans notre caractère, ben on a enterré la hache de guerre contre le péché. Hein. Si on croit que nos défauts sont... qu'on ne peut pas les corriger, alors évidemment on ne les corrigera pas, c'est une évidence. Et bien pourtant, une retraite nous permet de nous montrer qu'il faut revenir à Dieu et qu'il faut retrouver cette intimité et non pas cette distance qu'il a fondée en nous, en vivant en nous, depuis notre baptême et à chaque fois que nous avons recouvré l'état de grâce si nous l'avions perdu. Alors Dieu connaît notre faiblesse, et c'est ça qui est rassurant, c'est que nous ne la connaissons que très très mal, très très peu, notre faiblesse, parce que nous ne nous en rendons pas compte, bien souvent. Dieu connaît notre faiblesse, et lorsque nous nous en rendons compte, eh bien, indistinctement, eh bien, nous découvrons en même temps la miséricorde de Dieu. Et nous savons bien qu'il nous a donné ce moyen extraordinaire que sont les sacrements en général, mais spécialement celui de la confession, de la sacrement de la pénitence, qui, moyennant l'aveu de nos péchés et le regret de ces mêmes péchés, eh bien, nous remet, nous purifie de ces mêmes fautes et nous donne, du coup, la possibilité de retrouver cette jeunesse d'âme, cette sainteté de la grâce, donc dépouillée de tous ces obstacles dont on a parlé dans ce qu'on a vu, le péché véniel spécialement. Et puis, si nous avions perdu la grâce, bien sûr, c'est ce retour de l'amitié divine, complètement incroyable et qui est le fait de Dieu, puisque s'étant coupée de Dieu, l'âme qui a perdu la vie de la grâce n'a plus aucun moyen de la retrouver par elle-même. Il n'y a rien dans cette âme qui puisse permettre un retour à Dieu. Comprenons bien que lorsque nous commettons un péché grave, l'âme, c'est un péché volontaire par définition, tout péché est volontaire, c'est-à-dire que l'homme y a mis sa raison, sa liberté, sinon ce n'est pas un péché. Et donc, il y a dans cette volonté qui s'est opposée à la volonté de Dieu, une résolution qui l'enferre dans une révolte contre Dieu, et du coup, rien ne peut l'en retirer, puisque cela entraîne la perte de la vie divine. Et cette perte de la vie divine, qui était donc la grâce, qui était donc toutes les aides de Dieu, étant supprimée, rien dans cette âme qui est enracinée dans une révolte ne peut la faire changer. Rien d'humain. C'est-à-dire seule la grâce de Dieu elle-même, qui reviendra chercher l'âme en lui donnant ce qu'on appelle une grâce actuelle, c'est-à-dire un secours transitoire, à laquelle répondra ou non cette âme qui est tombée dans le péché grave. Et si elle répond oui, si elle s'ouvre à cette première grâce, elle pourra faire le chemin de retour jusqu'à une confession, jusqu'à une contrition qui permettra le retour de la grâce sanctifiante, c'est-à-dire de l'état de grâce. Mais dans cette âme perdue par la révolte, il n'y a plus rien qui puisse appeler un quelconque retournement. C'est uniquement le fait de Dieu, la miséricorde de Dieu, qui viendra se retirer. Mais Dieu veut sauver ses âmes. Il les a sauvées sur la croix, donc il ne veut pas laisser tomber, même si elles se sont laissées tomber elles-mêmes, même si elles se sont coupées elles-mêmes de Dieu, eh bien Dieu revient à la charge. Même si on s'est révolté contre lui, même si on a été son ennemi, eh bien il vient nous rechercher. Et très régulièrement par des bonnes inspirations. Et bien évidemment, spécialement l'appel du sacrement de pénitence que l'Église a, pour lequel l'Église a mis cette obligation. Enfin, l'obligation est pour la communion, en vue de la communion, la confession, la communion annuelle et la confession qui prépare. Eh bien, en tout cas, dans ce sacrement de pénitence, nous réalisons la miséricorde de Dieu, la bonté de ce Dieu qui, bien qu'offensé, prend les devants pour venir auprès de celui qui ou de celle qui a offensé et qui nous tend les bras alors que nous l'avons rejeté, dans le cas d'une faute grave, hein, je parle. Alors nous savons que Jésus a fondé, institué ce sacrement. C'est un signe sensible, comme tout sacrement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de matériel et quelque chose de, qu'on dit, formel. C'est-à-dire un élément qui est indéterminé et un élément qui détermine, qui va faire que Dieu a voulu l'emploi de gestes, de paroles, de matières, dans un emploi déterminé auquel il donne une grâce, par lequel il donne une grâce. C'est-à-dire qu'en respectant cet usage que Dieu a défini dans un sacrement, je parle des sacrements en général, eh bien, Dieu confère à cet usage d'une matière précise un pouvoir que la matière en question n'a absolument pas en elle-même, Mais ce pouvoir est donné, est un pouvoir surnaturel, et qui est obtenu infailliblement, moyennant ce qu'on appelle la matière, la forme et l'intention dans la réalisation du sacrement. Alors, le sacrement de pénitence en lui-même, nous le savons, va effacer nos péchés. Et cela autant de fois qu'il le faut. Le Concile de Trente a été très clair dans un canon, c'est-à-dire dans une condamnation d'une erreur. Il dit ceci: si quelqu'un dit que dans l'Église catholique la pénitence n'est pas un vrai et propre sacrement institué par le Christ notre Seigneur pour réconcilier les fidèles aussi souvent qu'ils tombent dans le péché après le baptême, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit condamné. Ce sacrement donc a été institué par notre Seigneur, c'est un véritable moyen, un remède pour l'âme qui est tombée dans le péché, et il a institué cela lorsqu'il a dit le jour de la résurrection, jour de Pâques, à ses apôtres: recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Vous trouvez ça dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 20. Et puis, il y a également l'équivalent chez saint Matthieu: tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Mais là, c'est avant la passion, c'est la promesse de ce don, Matthieu 18. Alors, après avoir considéré nos fautes, il faut que vous soyez dans cette période-là de la retraite, où il faut faire un examen de conscience sérieux pour envisager une bonne confession et aborder ainsi la deuxième grande partie d'une toute retraite qui va être plus d'intimité avec Dieu, de désir de le suivre dans sa volonté concrètement manifestée dans votre devoir d'État, dans votre état de vie. Eh bien, cela sera beaucoup plus facile justement une fois que vous aurez été purifié par le sacrement de pénitence. Alors après avoir considéré nos fautes, leur diversité, leur multiplicité, il faut évidemment en demander pardon, puisque le sacrement de pénitence n'a de validité que si l'on regrette ces éloignements, ces fautes, ces rébellions que l'on a commises contre Dieu. Il faut donc demander pardon, et c'est le sacrement qui viendra justement perfectionner cette contrition qui peut être imparfaite. La contrition imparfaite, c'est que c'est un mélange de regret d'avoir offensé Dieu, mais aussi de crainte du châtiment ou des désagréments qu'ils nous ont causés. Donc ce n'est pas un motif très pur, une contrition imparfaite, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est imparfaite. La contrition parfaite, elle est celle qui est véritablement un motif animé par la charité de Dieu déjà en nous, qui est donc une grâce, l'effet d'une grâce, et qui nous fait regretter d'avoir offensé Dieu, c'est tout. C'est-à-dire qu'on ne regrette pas parce qu'on a peur d'échapper à un châtiment, c'est qu'on a compris qu'on a offensé Dieu et que c'était inadmissible de notre part. Alors, comprenons bien que c'est déjà l'effet d'une grâce actuelle, justement, que de pouvoir venir regretter ses péchés dans le sacrement de pénitence. Et si vous avez parfois du mal, que ce soit durant l'année ou dans la retraite, bien sûr, pour regretter vos péchés passés, demandez cette grâce de la contrition. Il ne faut pas avoir peur de quémander, de demander. Nous devons nous rappeler de cette promesse que Jésus a donnée à tout le monde, hein: frappez et l'on vous ouvrira, demandez, vous recevrez. Il y a véritablement cela doit se concrétiser, cette promesse, spécialement dans ces grâces indispensables, que notamment celle de la contrition dans une confession. Alors je dis bien durant l'année aussi, c'est-à-dire que même si vous vous confessez régulièrement, même si vous pratiquez régulièrement, il peut y avoir un phénomène de routine, d'habitude, on se confesse, puis on finit par se décourager parce qu'on se confesse toujours des mêmes choses. J'allais dire heureusement, en un sens, qu'on se confesse des mêmes choses. Évidemment, ce serait souhaitable de réduire l'étendue des fautes, mais c'est déjà beaucoup de ne pas multiplier l'étendue, d'élargir l'étendue des fautes. Et c'est déjà le fait d'une vie qui est active que de maintenir, même si, encore une fois, il n'y a pas réduction, dans, dans l'état de nos fautes qui sont les conséquences du péché originel, mais aussi de nos faiblesses personnelles. Alors bien sûr, il ne faut pas se contenter de cela, hein, ce n'est pas ça que je dis, mais durant ces périodes, ce qui manque, certainement, c'est une contrition forte. Donc c'est pour ça qu'on est toujours dans cette même zone, ce même nombre, ces mêmes péchés que l'on répète régulièrement en confession. C'est certainement parce qu'il y a un manque de contrition, en tout cas un manque de grande contrition. C'est pas qu'on n'a pas de contrition, c'est qu'on n'en a pas assez. Alors comme tous les sacrements, il y a trois choses qui sont nécessaires pour la validité, je l'ai dit, matière, forme et puis un ministre, bien sûr aussi, qui a l'intention de faire ce que fait l'Église. Alors la matière du sacrement de pénitence est un petit peu spéciale. Pour le baptême, on le sait, c'est l'eau, par exemple. C'est facile à comprendre. Pour la confession, ce sont les actes, la matière, hein, ce sont les actes du pénitent. Alors, quels sont les actes du pénitent? Ce sont des actes de contrition, c'est son accusation, et enfin, la satisfaction qu'il fait, c'est-à-dire, il prend la décision, la résolution de faire la pénitence sacramentelle qu'on lui donne à la fin de la confession, que le prêtre donne à la fin de la confession. Donc, trois actes de la part du pénitent. Et ces trois actes sont évidemment indispensables. S'il n'y a pas de contrition, on a beau accuser tous ses péchés, on a beau être prêt à faire la pénitence que le prêtre nous donne, il n'y a pas sacrement. Quand je dis « il n'y a pas sacrement », ça veut dire qu'il n'y a pas d'absolution possible. Et s'il y avait absolution, c'est-à-dire si le prêtre donnait la formule d'absolution, qui est la forme du sacrement, c'est-à-dire que c'est bien l'absolution qui est la destruction de ces péchés regrettés, confessés et regrettés, mais c'est surtout regretté, parce que confesser, ben, on vient pas pour ça, on sait bien qu'on va dire des choses. Et donc c'est surtout regretté qui fait que la forme, c'est l'absolution qui absout, qui délie, qui détruit les péchés qui ont été regrettés. Mais s'il n'y a pas regret, il y aura beau avoir absolution, il n'y a pas sacrement. Il n'y a pas destruction de péché. Je dis cela pour expliquer que c'est ce qu'on appelle justement une confession sacrilège. C'est-à-dire que la personne qui ne regrette pas ses péchés, soit parce qu'elle est prête à continuer à vivre dans le péché, soit parce que elle a tout accusé sauf une faute grave, même une. C'est-à-dire, elle est prête à regretter d'avoir offensé Dieu sur bien des points, mais elle ne regrette pas d'avoir offensé Dieu sur un point. C'est incompatible avec un véritable regret. Si vous offensez quelqu'un, alors après vous lui demandez pardon, mais vous vous réservez le droit de recommencer, ou plutôt vous lui faites une offense en même temps que vous lui demandez pardon pour une série de fautes que vous avez commises, c'est incohérent. Il n'y a pas possibilité de croire à la contrition d'une telle personne. Et donc dans ces cas-là, évidemment, ce qu'on appelle une confession sacrilège, c'est-à-dire que la personne a volontairement, hein, ça ne peut être que du volontaire hein, pour qu'il y ait cette confession sacrilège, omis d'accuser une faute grave, c'est uniquement des fautes graves, parce que, pour différents motifs, peu importe, en tout cas, elle l'a fait volontairement, et du coup, elle ne regrette pas ce péché, elle ne veut pas le mettre sous le pardon de Dieu. Donc il n'y a pas de confession, il n'y a pas de sacrement de pénitence, plus exactement. Il n'y a pas de sacrement de pénitence. Alors évidemment, dans ces cas-là, la confession est invalide, et il faut la refaire. Il faut la refaire entièrement, y compris toutes celles qui ont pu être invalidées par la suite. Alors c'est pour cela que dans une retraite, il est bon, même si on n'est pas dans ce cas-là, de faire une confession générale. C'est une invitation, c'est un conseil, ça n'est pas une obligation. Donc je rappelle rapidement ce qu'est une confession générale, c'est que on reprend l'ensemble des péchés qui nous reviennent en mémoire depuis, généralement depuis la dernière confession générale que l'on a faite, et puis si on n'en a jamais fait, depuis l'âge où nous avons commencé à goûter le bien et le mal, c'est-à-dire l'âge de raison. Alors ça nous fait remonter loin parfois. Eh bien, il est bon dans une retraite au moins dans sa vie, d'avoir fait, en tout cas, une confession générale. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une obligation, et il peut y avoir parfois même des contre-indications que vos confesseurs habituels auront pu vous donner. Donc, prenez conseil avant d'en faire une générale. Si vous êtes habitué à faire une confession générale d'une retraite sur l'autre, pour celles d'entre vous qui font des retraites régulièrement, cela est tout à fait bon et conseillé. Donc, alors évidemment, ça paraît fastidieux de se dire, voilà, il faut remonter jusqu'à l'âge de raison que l'on fixe arbitrairement dans l'Église à 7 ans, bien que ce soit largement plus tôt pour la plupart des enfants. Donc, effectivement, ça fait une espèce de grand film qu'il faut ressortir des mâles enfouis pour revoir notre vie. Mais sachez que il vaut mieux purifier notre âme, y compris de fautes confessées, donc, hein, bien entendu, parce que cela nous purifie complètement bien plus des peines temporelles qui sont dues. Même si le péché est ancien et pardonné, il y a peut-être encore des restes de peines temporelles qui n'ont pas été ici-bas réglées. Eh bien, il vaut mieux le faire ici-bas qu'au purgatoire, ne l'oublions pas. Alors la matière de ce sacrement, nous l'avons dit, les trois actes du pénitent lui-même. Donc, le premier, c'est la contrition. Le mot contrition vient du latin, d'un verbe latin qui veut dire broyer, écraser, conterere, qui montre que dans ce qu'on appelle contrition, c'est notre volonté qui se trouve comme broyée, enfin en tout cas notre par le poids de du péché. Il y a un regret qui s'installe dans cette volonté et donc qui la stimule pour sortir de ce qui était un engagement de cette même volonté, c'est toujours elle qui est en cause, vers le mal et loin de Dieu. La définition du Concile de Trente est éclairante. La contrition est une peine de l'âme et une détestation du péché commis avec un ferme propos de ne plus pécher dans le futur. La contrition suppose non seulement la cessation du péché, avec la résolution de débuter une nouvelle vie, mais aussi la haine véhémente de la vie passée, avec la détestation profonde du péché. N'imaginons pas la contrition comme une affaire de notre sensibilité. Ce n'est pas au nombre de larmes que l'on verse que on mesure notre contrition. Les larmes peuvent exister. C'était la messe de samedi quand vous êtes arrivé. C'était Sainte Marie-Madeleine. Mettez-vous sous sa protection, sous son patronage. Ce sera une bonne chose pour cette journée et cette préparation de confession. Mais ce n'est pas le nombre des larmes de Marie-Madeleine qui ont été la mesure de sa contrition. La mesure de sa contrition, c'est son changement de vie, c'est sa pénitence. Elle est invoquée comme titre unique de pénitente. Il y en a qui sont confesseurs, vierges, pontifes, etc., les saints, martyrs. Elle est pénitente. Donc c'est vraiment le modèle que vous devez suivre pour préparer cette confession. Eh bien, en tout cas, la contrition se mesure à un degré de résolution de la volonté. Et non pas, c'est pas une affaire de sensibilité. La volonté, hein, c'est cet appétit de la raison. Donc c'est cet mouvement qui tend vers le bien, mais gouverné par la raison. Ça n'est pas au niveau sensible, ça n'est pas au niveau de la sensation, ni des sens, ni des passions. Ne confondons pas, hein, la contrition est au niveau de la volonté. Et elle suppose la cessation du péché avec la résolution de débuter une nouvelle vie. Et c'est pour cela, je disais tout à l'heure, qu'une personne qui n'est pas décidée à rompre, par exemple, avec une vie mauvaise, une habitude mauvaise, une faute qui l'empêche de vivre dans la grâce, eh bien, n'a pas la contrition. Et c'est pour cela qu'un prêtre peut refuser l'absolution. Cela arrive, une personne qui refuse de changer la vie qui la met dans le péché, eh bien, n'a pas la contrition. Enfin, en tout cas, au moment où elle se confesse. Alors, il faut susciter cette contrition, c'est pas toujours facile. Et puis surtout, il faut en vérifier la réalité. Et ça peut être le motif de retarder ou de refuser l'absolution. Bon, ce sont des cas évidemment rares, mais qui peuvent exister. Alors cette contrition, les théologiens la distinguent en trois. Je vais vite sur cette distinction, mais elle est importante. Il est important quand même de la connaître. On peut dire que la contrition peut être servile, imparfaite ou parfaite. Alors je reprends les termes. Servile, c'est-à-dire qu'on va s'arrêter de pécher, mais pour des motifs purement naturels. C'est que ça nous fait du mal, ou c'est que finalement on en a des conséquences, je suis gourmand et finalement je prends du poids, alors je m'arrête d'être gourmand. Bon, vous voyez que le motif n'est pas surnaturel. Donc c'est une contrition éventuellement sur la faute de gourmandisme, mais enfin qui est purement servile. Imparfaite, on regrette ses fautes par peur des châtiments divins. Et surtout de l'enfer, évidemment. Alors, c'est une contrition qu'on appelle aussi attrition, A-D-T. Attrition, donc c'est-à-dire qu'on est quand même vers un, on se rapproche d'un regret véritable, mais c'est un mélange. Alors, rassurez-vous quand même, cela suffit pour se confesser. Même si vous vous confessez parce que vous avez peur de l'enfer, et que vous aimeriez quand même bien pécher si c'était pas interdit, il y a quand même un minimum. Alors il faut pas évidemment avoir la volonté déterminée de vouloir continuer à pécher. Ça c'est une absence totale de contrition. Hein, là. C'est pas même pas une attrition là, hein, c'est clair. Mais quand je veux dire, c'est même s'il y a un mélange, en tout cas, vous regrettez d'avoir fait le mal, mais en même temps vous vous sentez fragile, mais surtout vous avez peur de l'enfer. C'est suffisant. C'est ce qu'on appelle l'attrition. C'est suffisant pour aller faire une confession. Et le sacrement de pénitence va justement parfaire, c'est-à-dire transformer, rendre parfaite cette attrition, rendre parfaite cette contrition qui était insuffisante en soi, d'un point de vue du pénitent. Et c'est aussi, c'est pour cela qu'il faut se confesser, c'est parce que le sacrement lui-même a la puissance de transformer une attrition, donc une contrition imparfaite, en contrition parfaite, ne l'oublions pas. Et enfin, donc, cette contrition parfaite, qui peut exister, mais c'est pas facile à juger, elle peut exister en dehors du sacrement de pénitence, c'est lorsque l'on regrette ses péchés par amour pour Dieu. On a véritablement, sous l'action de la grâce, compris que offenser Dieu, c'est un crime abominable, et on en est l'auteur, et on ne veut plus en être l'auteur. Voilà un petit peu la contrition parfaite. Alors je dis qu'on peut l'avoir en dehors de la confession, c'est possible, c'est le fait d'une grâce, donc ça n'est pas automatique, c'est pas un dû, et ça peut évidemment nous sortir de l'état de péché mortel, et surtout si on n'a pas la possibilité de se confesser. Donc il faut faire des actes, il faut demander à Dieu cette grâce de la contrition parfaite, s'il y avait une chute grave, et sans possibilité de se confesser. La contrition parfaite, en dehors de la confession, exige donc ce regret d'avoir offensé Dieu, cette résolution ferme de ne plus retomber et d'abandonner le péché, de le réparer dès que possible, au moins par la pénitence, et puis la volonté décidée de se confesser dès que possible, c'est-à-dire dès qu'on pourra avoir raisonnablement un prêtre. Donc, retenez bien qu'il faut avoir cette résolution positive de changer de vie. On est donc déterminé à repousser le péché sous toutes ses formes, en tout cas ses formes graves bien sûr. Et puis, même chose pour les péchés véniels, si on les regrette, eh bien, il faut les regretter. Et on ne peut le faire qu'en voulant s'en débarrasser. Et puis une douleur interne, une douleur qui est cette volonté qui se rend compte. Et cette, alors il y a une part de sensibilité, on n'est pas, il n'y a pas des cloisons dans notre être. Mais c'est davantage une douleur qui se rend compte que nous avons vu, donc c'est l'intelligence qui se rend compte qu'elle a fait quelque chose de grave contre Dieu, ou elle a offensé Dieu, et donc elle en est touchée, elle en est peinée. Et cela ne peut se faire que si on en a mesuré la gravité, même si c'est une faute véniels, si on a vu que c'était, alors c'est ce qu'on avait vu l'autre jour sur hier, sur le péché, c'est qu'on a du mal à comprendre la gravité du péché, on a du mal à voir ce que c'est que le péché, eh bien c'est une grâce que de comprendre l'horreur du péché, et inévitablement on ne veut plus cette horreur du péché, donc on en a la douleur, ça s'entraîne. Et alors cette douleur, évidemment, sera plus interne qu'externe, que superficielle, il ne s'agit pas de pousser des cris, elle sera universelle, c'est-à-dire qu'elle portera sur toutes nos fautes, et bien sûr toutes nos fautes graves, sans restriction. On ne va pas, encore une fois, continuer d'offenser Dieu dans un domaine sous prétexte qu'on va déjà supprimer 3-4 autres domaines, c'est déjà pas mal. Ce serait complètement incohérent. Il y aurait absence totale de contrition. Et puis, à un degré maximal, évidemment, une faute grave est regrettée bien plus qu'une faute légère. C'est normal. Et elle doit être, cette contrition, surnaturelle, c'est-à-dire c'est le fruit d'une grâce actuelle. C'est pour ça que je vous invite à la demander, cette contrition, et activement. Alors, comment demande-t-on la grâce de la contrition ? Par la prière, bien sûr, mais aussi par la pénitence. Et cette période de la retraite doit être une période avec des pénitences corporelles. Vous en avez qui s'imposent à vous, la chaleur, les choses comme ça. Ça peut être sur la nourriture. Ne faites pas, je vous déconseille, sur le sommeil. C'est parce que, encore une fois, on vous l'a déjà dit plusieurs fois, il faut donc pas de choses déraisonnables. Et si vous envisagez des pénitences, demandez des pénitences sérieuses. Demandez conseil au prêtre. Faites-le par obéissance avec l'autorisation du prêtre. Comme ça, on ne fait pas de choses inconsidérées, avec de la bonne volonté, mais enfin une bonne volonté qui peut parfois faire des choses catastrophiques. Donc, faites-le par obéissance uniquement. Je parle des grandes pénitences. Hein. Je ne parle pas de supporter la chaleur ou de vous priver de telle ou telle chose à table. L'accusation. L'accusation, deuxième acte du pénitent, il est évident que le prêtre n'est qu'un être humain et qui ne connaîtra l'étendue de vos péchés que si vous les lui exposez. Malheureusement, nous ne sommes pas tous des curés d'Ars ou d'autres saints prêtres qui peuvent voir, sans qu'on les leur dise, tel ou tel péché. C'est un don que je n'ai pas personnellement, je tiens à le préciser. Donc, il faudra tout nous dire. Alors, il faut accuser en confession, de façon obligatoire, tous les péchés mortels. C'est-à-dire tous ceux qui ont eu une matière grave, une pleine connaissance, pleine advertance, et un plein consentement, pardon. C'est-à-dire une volonté totalement volontaire, si je puis dire. Donc on a engagé notre liberté dans quelque chose que l'on savait être contraire, en matière grave, à la volonté de Dieu. Et puis, il est évidemment conseillé, et c'est normal, surtout dans une retraite, ce serait vraiment dommage de s'en priver, de confesser tous les péchés véniels, c'est-à-dire ces fautes qui ne nous ont pas fait perdre la vie de la grâce, mais qui, encore une fois, nous ont ralenti, nous ont freiné, nous ont obscurci notre charité, nous ont ralenti notre vie spirituelle. Et donc, c'est cette confession qui permettra au prêtre de porter un jugement sur les dispositions de votre âme, d'abord sur la réalité de cette vie de péché, et en même temps sur les dispositions vis-à-vis de votre contrition. Alors, il faut bien préparer sa confession, justement, parce que il faut que l'examen de conscience soit soigné, soit préparé, et dans une confession de retraite, généralement, on le fait par écrit, tout simplement. Comme ça, on n'a pas à éviter les confessions où c'est un examen de conscience en direct, hein, pour le prêtre. Quand il y a beaucoup de gens qui attendent, c'est toujours une confession qui se rallonge indéfiniment. Alors, il faut préparer par écrit, tout simplement, hein, sa confession, et puis après, on la détruit. Donc, il n'y a pas de souci sur la discrétion. Alors, qu'est-ce qu'il faut accuser ? On a dit les péchés, bien sûr, mais de quelle façon ? Ben, il faut, si l'on peut, pour les péchés mortels, hein, donner le nombre, hein, si on en a commis plusieurs, si on ne sait pas le nombre, une fréquence, s'il se répète, ou en tout cas quelque chose d'approximatif, il faut pas inventer des chiffres. Il ne faut pas non plus aggraver son cas en se disant on obtiendra une plus grosse réduction de peine. C'est contraire à l'esprit de la vérité qui doit être absolue dans ce sacrement de pénitence. C'est pas parce que vous serez montré plus misérable que vous êtes que vous aurez une plus grande rémission des péchés. Ce serait incohérent. Le bon Dieu est la vérité parfaite, donc vous êtes jugé au millimètre près, même si vous n'accusez pas au millimètre près, parce qu'on est incapable de se connaître parfaitement dans nos fautes. Seul à notre jugement particulier, à notre mort, là nous connaîtrons la réalité au millimètre près. Mais en attendant, on fait de l'approximatif, mais de l'approximatif avec la bonne volonté de tout faire au mieux. Donc n'ayez pas peur de trous de mémoire ou de choses où vous dites « mais j'ai oublié des péchés », etc. Si vous ne les cachez pas, il n'y a aucun risque, il n'y a aucune crainte à avoir. Le bon Dieu, il connaît la faiblesse humaine, y compris la faiblesse de la mémoire. Donc ça n'est rien de grave. Les circonstances. Alors les circonstances, attention aux mots, parce que c'est pas parce qu'il faut raconter les circonstances qu'il faut déployer tout l'historique qui a abouti à la chute. Donc il faut être simple et ne préciser des circonstances parmi celles qui pourraient modifier la gravité éventuellement du péché ou son espèce. Voler une somme d'argent, c'est une chose, donc vous pouvez dire j'ai volé. Bon, il faut dire quoi. Ensuite, c'est vrai que si vous volez, imaginez un mendiant, c'est plus grave que de voler quelqu'un qui apparemment avait de quoi survivre au vol. Vous voyez, c'est une circonstance qu'il faudrait accuser, par exemple. Bon, dans bien d'autres domaines, évidemment, il faut préciser si on a affaire à un péché véniel, un péché grave. Si c'est un péché de gourmandise, vous dites, voilà, j'ai été gourmande, bon, et ça veut dire, j'ai mangé entre les repas, ou bien je me suis goinfré à être malade, c'est évidemment pas la même chose, c'est pas le même péché. Donc il faut préciser uniquement, dans la même confession, dans le même aveu, voilà, c'était une petite chose ou quelque chose de grave, etc. Et l'espèce, donc, quand on le peut, c'est-à-dire si c'est un péché mortel, un péché véniel, donc c'est ce qu'on vient de voir. Oui, revenons sur la question du vol, ça peut être ça, et ça peut être aussi la quantité volée, bon, c'est des choses qui vont être jugées par le prêtre, éventuellement. Si vous êtes dans le doute, vous exprimez vos doutes, vous dites, voilà, ça je sais pas, bon. N'ayons pas peur de... le prêtre est là pour vous aider, y compris dans la confession, c'est-à-dire dans l'aveu de vos fautes. Si vous avez des doutes sur certaines parties de votre confession, précisez-les et interrogez éventuellement le prêtre, c'est le moment. Enfin, troisième acte du pénitent, c'est la satisfaction. Donc on va réparer. C'est d'abord la réparation sacramentelle, donc l'accomplissement de la pénitence sacramentelle qui vous est donnée en fin de confession par le prêtre. Ça peut être une prière, ça peut être un acte, etc. Et puis évidemment, la réparation aussi extra-sacramentelle, c'est-à-dire que on va garder l'esprit de pénitence, on va faire des œuvres de charité, on va utiliser des sacramentaux, on va faire des sacrifices dans un esprit général de pénitence qui est consécutif au sacrement de pénitence. Pourquoi il s'appelle le sacrement de pénitence? Parce que c'est le sacrement qui nous donne une plus grande force pour pratiquer la vertu de pénitence, qui est la vertu qui nous fait nous retirer du créé et qui nous fait quitter ce qui nous a fait pécher. C'est une vertu. Eh bien, le sacrement de pénitence nous donne avec abondance cette vertu. Il la fortifie et nous en rend les actes plus faciles. Et c'est pour cela que l'on conseille la confession fréquente. C'est aussi une des raisons importantes de la confession fréquente, c'est que ça nourrit notre vertu de pénitence. Et donc, ça facilite ces petites pratiques quotidiennes de pénitence qui nous sont bien nécessaires pour réparer justement nos fautes passées. Et non seulement elles nous réparent nos fautes passées, mais elles nous prémunissent contre des fautes à venir, contre les tentations. Une personne qui régulièrement fait pénitence, elle est peut-être tentée, mais elle ne tombe pas souvent. Et si elle tombe, c'est en faute vénielle. Parce qu'elle est constamment en retrait du monde créé, de ce qui peut la faire tomber. Donc c'est important de comprendre cela. Voilà de la part du pénitent. De la part du prêtre, eh bien, vous savez ce qu'il fait, s'il donne l'absolution. Alors il donne des conseils, mais les conseils ne sont pas... S'il n'y a pas de conseils qui sont donnés, la confession est quand même valide. Hein. Donc c'est l'absolution qui donne la validité du côté du prêtre. Donc le prêtre vous dit ceci. Il est bon d'entendre en français quand même de temps en temps ce qu'on vous dit en latin. La première petite bénédiction est belle, c'est pour ça que je vous la dis. Au moment où vous demandez « Bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché », vous lui demandez une bénédiction. Alors essayez, là, je vous donne un petit truc parce qu'on entend, avec l'habitude, on entend des choses qui sont... Vous demandez la bénédiction, donc après c'est le prêtre qui parle. Mais si vous ne dites pas « Bénissez-moi mon Père », nous on vous donne tout de suite la première bénédiction, hein. Mais donc c'est vous qui l'a demandé, donc c'est vous qui commencez à parler. Ensuite, c'est le prêtre qui vous bénit, qui vous dit ceci. « Que notre Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres, afin que vous confessiez proprement tous vos péchés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Voilà ce que vous dit le prêtre au tout début. Et puis après, c'est à vous. Donc ça veut dire que vous accusez vos péchés. Alors, si on a le temps, on dit le Confiteor. Si on a beaucoup de gens qui se confessent, il est bon de le dire seul, avant la confession. Et puis après, le prêtre donc, vous donnera quelques conseils, vous posera éventuellement des questions, et vous donnera l'absolution, qui est donc que notre Seigneur Jésus-Christ vous absolve, et moi, par la même autorité, je vous absous de tout lien, d'excommunication et d'interdit autant que je le peux, et autant que vous en avez besoin, c'est dans le cas de fausses, certaines fautes. Ainsi, je vous absous de vos péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et puis après, cette très belle prière qu'il faudrait méditer. Alors, dans certains confessionnaux, c'est bien, elle est mise en français devant le pénitent. Et c'est une bonne chose. C'est cette belle prière qu'on vous dit en plus. Que la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, les mérites de la très sainte Vierge Marie et de tous les saints, tout le bien que vous avez fait et toutes les peines que vous avez supportées, soit utilisé pour vous, pour la rémission de vos péchés, une augmentation de grâce et la récompense de la vie éternelle. Voilà ce qui nous est promis dans ce sacrement de pénitence. C'est très beau de voir cette dernière prière que le prêtre fait sur vous. Alors bien sûr, le prêtre doit avoir l'intention de faire ce que veut l'Église. Donc ça, c'est évidemment l'aspect... du côté du prêtre, mais enfin ça ne pose pas de difficulté d'une façon générale. Donc si nous regardons, une bonne confession est donc avant tout accompagnée, remplie d'une grande détestation du péché et d'une ferme résolution de fuir les occasions de péché. Et si vous voulez progresser suite à cette retraite, il faut examiner cela. C'est-à-dire les occasions de péché. Et dans votre examen de conscience que vous ferez pour préparer cette confession, examinez en même temps les origines des péchés les plus fréquents. C'est-à-dire que ça n'est pas telle personne qui est la cause, c'est telle faiblesse en vous. Dans vos confessions, n'accusez pas les autres. Même s'ils sont en jeu, ça arrive souvent, hein. C'est chacun son tour, hein. Donc n'accusez pas vos maris, n'accusez pas vos enfants. C'est nos fautes, elles sont bien les nôtres. Peut-être qu'il y a des motifs chez eux de nous faire pécher, entre guillemets, mais c'est nous qui péchons. C'est notre absence de vertu que nous accusons, c'est pas leur faute à eux. Chacun son tour. Alors, il faut donc examiner ces occasions de péché, c'est très important. Souvent, c'est là qu'on peut modifier substantiellement notre vie spirituelle. C'est en ayant repéré précisément que dans telle circonstance, il y a ça, il y a ça, il y a éventuellement un tel, eh bien, c'est là que je glisse. Pourquoi ? Non pas parce qu'il y a ces circonstances, mais parce que je suis faible. C'est ça qu'il faut se dire, d'abord. Alors c'est vrai que la répétition des circonstances entraîne peut-être la répétition de mes chutes, mais on dit un homme averti en vaut deux. Ben, cette phrase que nous comprenons et qui nous est tout à fait raisonnable à l'oreille, ben, on devrait l'appliquer justement dans les chutes. Nous savons que dans telle et telle circonstance, nous risquons de tomber et nous ne faisons rien contre. Donc l'homme averti ou la femme avertie n'en vaut pas deux. Donc il y a une incohérence de notre part. Si nous savons que dans telle circonstance, nous risquons de glisser, ben, il faut prendre les moyens de ne pas glisser. Non pas les moyens de supprimer, c'est pas toujours possible de supprimer les circonstances. On peut pas toujours. On va pas supprimer les gens qui nous embêtent. On va pas fuir les gens qui nous embêtent ou qui nous font tomber. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on se prépare par la prière, par quelques pénitences. Si on sait qu'à telle circonstance, tel moment, on rencontre telle personne qui va risquer de nous faire tomber dans tel ou tel péché, eh bien, si on peut, évidemment, on fuit la tentation. On n'a pas besoin de jouer avec le feu. Mais si on ne peut pas, ou si ça ne convient pas de fuir cette occasion de péché, qui peut être une personne ou une chose, eh bien, on doit se préparer à combattre. On ne doit pas se préparer à tomber, à offenser Dieu. Donc, il faut bien examiner ces circonstances, et c'est là qu'on progresse. C'est avec cet examen minutieux des circonstances. Et vous verrez, il y aura des circonstances sur lesquelles vous ne pouvez rien faire. Elles s'imposent. Ça peut être un milieu professionnel, ça peut être familial, bien sûr. Ça peut être, vous voyez, des choses qui ne dépendent pas de vous. Donc, il ne s'agit pas de les changer. C'est pas elles, ce ne sont pas ces choses ou ces personnes qu'il faut changer, c'est vous. Mais comment mieux réagir face à ces circonstances ? Et là, vous verrez, brusquement, étonnamment, bien des progrès, avec la grâce de Dieu, s'opérer. Donc c'est encourageant, parce que souvent c'est parce qu'on a une mauvaise tactique de combat vis-à-vis de nos péchés qui fait qu'on, bah effectivement, alors on retombe toujours dedans et on ne cherche pas ou on ne croit pas qu'on puisse s'en sortir. Donc examinez bien ces pièges qui peuvent être de petits obstacles mais qui font de grands effets. Les effets du sacrement de pénitence, quels sont-ils ? Je les précise. Le premier, c'est bien sûr de remettre les péchés, ça vous le savez. Il remet la faute et la peine éternelle, toujours, hein, dès lors qu'il y a les conditions, hein, pour que le sacrement soit valide. Autrement dit, même celui qui s'était révolté totalement contre Dieu par la faute mortelle, se retrouve avec l'amitié divine, retrouve l'amitié divine. La vie divine lui est rendue, alors qu'il n'y avait rien de son côté qui puisse justifier un tel retour d'un cadeau. Et puis aussi les peines temporelles, c'est-à-dire des peines qui seraient limitées dans le temps et qui sont le paiement de notre attachement au créé qui nous a fait pécher. La peine éternelle, elle vient sanctionner la révolte contre Dieu. Dieu infini contre lequel on se révolte, c'est quelque chose d'infini comme révolte. Et donc, ça mérite quelque chose d'infini. Le seul infini correspondant, c'est l'éternité, puisque ça ne s'arrête pas. C'est comme un infini. C'est une sorte d'infini dans le temps. Et donc, ça, c'est absous et c'est détruit par le sacrement de pénitence. Et puis les peines temporelles, elles viennent sanctionner l'attachement des ordonnés, non pas l'éloignement de Dieu, mais l'attachement des ordonnés aux biens créés qui nous ont fait pécher. Eh bien, ces peines temporelles sont détruites en proportion de nos dispositions. Hein? Donc là, c'est pour cela qu'il faut faire une pénitence sacramentelle, et puis c'est aussi pour cela qu'il faut avoir un esprit de pénitence à l'extérieur du sacrement. Deuxièmement, c'est de faire revivre les mérites perdus par suite de nos péchés. Je précise que le péché mortel fait perdre tous les mérites acquis, c'est-à-dire tous ces droits aux récompenses surnaturelles auxquelles nous aurions eu droit si nous étions morts dans l'état de grâce. Nous avons un certain degré de mérite, et c'est de ce degré de mérite que dépend le degré de gloire divine, c'est-à-dire d'intensité de notre vision dans la Sainte Trinité, dans la vision béatifique. Et troisième effet du sacrement, c'est de nous donner des grâces actuelles qui vont nous aider à expier les péchés commis et à éviter les péchés à l'avenir. Et ça, c'est important. Donc c'est la vertu de pénitence qui se trouve renforcée, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, pour terminer, n'oublions pas que on se confesse à Jésus-Christ et non pas à l'abbé un tel. C'est un prêtre auquel vous vous confessez, certes, qui est tenu au secret, cela va sans dire, mais qui tient la place de Jésus-Christ. Alors il n'en a pas la bonté, il n'en a pas la perfection, c'est moins qu'on puisse dire, mais il en a les grâces d'État, par ces grâces d'État, il en a les pouvoirs, pardon. Il en a les pouvoirs. Et ce pouvoir doit être compris surnaturellement, avec confiance. C'est-à-dire que ce soit dans les conseils, que ce soit dans les jugements posés, eh bien, il y a des grâces. Le bon Dieu se sert de cet instrument qu'est le prêtre pour vous donner cette absolution, si vous la méritez, bien sûr, et puis avec cette ligne directrice qui pourra vous aider à avancer dans un chemin de contrition, de pénitence et de retour à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans cette préparation un petit peu fastidieuse, évidemment, quand on fait une confession générale, surtout, on n'aime pas remuer tout ce passé pécamineux, eh bien, regardez notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. C'est lui qui doit être votre guide, votre appel. Il vous appelle. Souvenez-vous de cette parole de notre Seigneur, « J'ai soif ». J'ai soif des âmes à sauver, et toute âme qui vient se confesser répond à cette soif. C'est aussi extraordinaire que cela de comprendre que ce Dieu qui a été offensé se réjouit, bien sûr, de retrouver une âme perdue. Hein, souvenez-vous de cette parabole de la brebis perdue et des 99 autres qui se réjouissent. Ils se réjouissent tous ensemble et ils se réjouissent plus d'une brebis retrouvée que des 99 autres qui étaient restés fidèles. Et puis souvenons-nous enfin que cette contrition, c'est la partie la plus importante du sacrement. Donc il faut demander si elle nous manque. Je vous invite à prier le Saint-Esprit, bien sûr, avant votre examen de conscience, à prier Notre-Dame, refuge des pécheurs, nous l'appelons comme cela dans les litanies. Sainte Marie-Madeleine, je vous l'ai dit, elle a commencé votre retraite, c'est un signe de la Providence. Et puis votre ange gardien, qui a été témoin de toutes vos fautes et qui peut vous aider à vous en souvenir et à les regretter. Et puis lisez, relisez la parabole du retour du fils prodigue, que vous connaissez bien sûr. Vous l'avez dans Saint-Luc au chapitre 15. Donc n'hésitez pas à vous aider, à la fois de la prière, de la lecture, de la pénitence, je le disais tout à l'heure, pour vous préparer à une sainte confession.